Et vous êtes toujours avec nous sur Bac FM 106.1, c'est l'heure du CDLP, l'émission où je reçois actrices et acteurs qui font l'actualité dans notre beau département nivernais. Bac FM s'est rendu en reportage dans la fabuleuse librairie féministe Les Audacieuses pour rencontrer l'autrice à succès Eve Cambre-Lang. Elle nous présente sa BD Après l'éclipse, ode à l'amitié féminine et qui parle de cette fameuse fatigue militante qui survient quand notre société masculiniste nous paraît trop haute à surmonter. L'espoir, il existe et on vous recommande évidemment cette BD. Allez, je vous emmène avec moi. Salut Eve.
Salut.
Merci d'accorder un peu de temps à Bac FM.
Avec plaisir.
Alors tu sors la bande dessinée après l'éclipse. Je voulais d'abord te demander comment tu définirais ton livre, comment tu le présenterais, parce que j'ai vu plein de thèmes là-dedans, hein, féminisme, militantisme, amitié, roller, Taylor Swift et j'en passe. Comment tu présenterais ton livre ?
Alors je dirais que c'est l'histoire de Mia, qui est une jeune femme qui va être confrontée au bouleversement qu'amène le féminisme dans sa vie. Ça parle de fatigue militante et ça parle surtout de comment les amitiés peuvent aider et sauver dans ce genre de situation.
C'est ta première BD de fiction, si je dis pas de bêtises. BD de fiction qui s'inscrit dans un mouvement très réel qui est celui du hashtag MeToo, c'est le point de départ de ta bande dessinée. Et je voulais te demander comment l'actualité que vivent malheureusement beaucoup de femmes au quotidien et à travers le monde inspire ton travail artistique.
Bah en fait, j'avais vraiment envie d'écrire une histoire qui résonne avec ce que je connais par cœur, avec mes histoires, avec les histoires de mes amis. Et donc forcément, MeToo, ça en fait partie, puisque c'était quand même un point de bascule il y a quelques années. Tout n'a pas changé depuis. C'est un peu ce qui est dit dans le début du livre. Mais c'est quand même un moment très important. Et donc, ça me semblait hyper cohérent quand on fait le portrait comme ça d'une génération de féministes, de le mentionner.
C'est comme ça que le projet, il naît dans ta tête, c'est à partir du hashtag MeToo ?
Ouais. Ouais, en vrai, ouais, j'avais envie de faire de la fiction, j'avais envie d'écrire des histoires d'amitié et j'avais aussi envie de parler de ce que c'est d'être féministe, d'avoir la vingtaine et d'être féministe en 2025-2026, parce que c'est pas exactement pareil qu'être féministe dans les années 90 ou dans les années 70.
L'héroïne s'appelle Mia, je crois. À quel point elle est proche de toi ?
Mia, elle est très proche de moi parce que, du coup, comme je l'ai dit, j'avais envie de raconter des choses que je connais très bien. Et en même temps, c'est pas moi, parce que ça me permet comme ça de faire ce que je veux, d'être beaucoup plus libre et de pas avoir de compte à rendre aussi. Donc c'est très inspiré, mais c'est aussi inspiré de mes amis, de personnes que je connais. C'est un peu un mélange de plein d'histoires et de plein de récits de vie.
Le traitement médiatique du féminisme, il est très en deçà de ce que les assos réclament et de ce que ça devrait être, pour être tout à fait honnête. Ton personnage, il entre dans un collectif féministe. C'était important pour toi de montrer aussi la joie et l'énergie de ce groupe, là où dans des grands médias privés, je pense à ceux du groupe Bolloré par exemple, il est montré qu'à travers un prisme violent et souvent d'ailleurs, voire toujours faux.
Bah oui, bien sûr. En fait, je pense que un des trucs très forts dans le collectif, c'est de pouvoir exprimer sa colère. Et la colère, je pense que ça galvanise et que ça permet de faire beaucoup de choses. Mais la joie, ça, c'est ce qui permet de tenir sur le long terme. Et c'est aussi beaucoup de joie qu'apporte le collectif et qu'apportent les communautés. Donc c'est clair que c'est les deux penchants, je trouve, du militantisme. On a vraiment besoin d'histoires autour de la joie militante parce qu'on en a peu et en fait c'est ça qui rend l'exercice supportable. Parce que si on est que en colère tout le temps, c'est épuisant.
Moi, ce que j'adore dans ta BD, c'est qu'il y a toutes les facettes, si je puis dire. Et il y a aussi ce concept de fatigue militante. Mia, vers le milieu, de la BD, se retrouve un peu fatiguée. Il y a un sentiment de un peu de « je me bats dans le vide ». Comment tu l'abordes, toi, au quotidien, cette fatigue militante ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ?
Bah oui, bien sûr. En fait, la fatigue militante, quand on milite pour une cause, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui nous pend au nez et qui arrive à un moment donné. Forcément, si on est très impliqué, à un moment donné, on est épuisé et on est là, hélas. Et c'est vraiment ça que moi aussi j'ai vécu avec le féminisme, c'est qu'il y a un moment donné où en fait on n'a plus de force parce qu'on a tellement de, on met tellement et on a tellement d'attentes et on espère tellement que ça va bouger vite, alors qu'en fait c'est des combats qui prennent des années et qui prennent, enfin qui bougent sur le long terme, et du coup on peut être vachement frustré de voir que ça avance pas autant qu'on voudrait à notre petite échelle. Et donc c'est pour ça que ça, je trouvais ça hyper intéressant d'aborder ce sujet-là dans le livre, parce que c'est un truc que moi je connaissais pas trop avant de le vivre. Et j'ai aussi un peu essayé de répondre à la question de comment on fait une fois qu'on est fatigué. Et je crois qu'une des réponses, c'est l'entourage et c'est les amitiés.
Il y a aussi tous les retours de bâton du féminisme, insultes, intimidation, conséquence du patriarcat, évidemment. Est-ce que c'est difficile en 2026, à l'heure où même des gens qui se revendiquent féministes militent contre la cause, là je fais référence au collectif Némésis notamment, qui se disent féministes et qui...
Ah oui, voilà, Némésis, c'est pas des féministes, donc
ouais,
c'est
voilà,
pas...
qui n'ont que l'étiquette.
Ouais.
Bref, tout cet aparté pour dire, est-ce que c'est difficile, à l'heure où l'extrême droite est très très forte en France, d'être féministe en 2026?
Ben, je pense, oui, qu'on a eu un peu un pic de féminisme hyper optimiste. Je pense, au moment de MeToo, et il y a eu un peu une vague où c'était vraiment genre, presque à la mode d'être féministe. Toutes les marques prenaient le pas et faisaient des campagnes body positive, etc. Et maintenant, on est un peu sur le déclin quand même. On est plus tendance fascisme, donc c'est une autre ambiance. Donc je pense que c'est plus que jamais nécessaire d'être féministe, plus que jamais nécessaire d'être intransigeante face à la montée des extrêmes, la montée des fascismes. Et voilà, c'est vraiment... maintenant, on est dans un monde de guerre d'idéologie, et donc c'est... On n'a pas le choix que de lutter, quoi. On ne peut pas trop faire autrement, je trouve.
Ton livre, c'est presque une ode à l'amitié féminine. Qu'est-ce que l'amitié permet de faire que la famille ou d'autres personnes proches ne peuvent pas faire?
Je pense que ça dépend vraiment des personnes. C'est vraiment propre à chacun. Et je pense que l'amitié vient parfois compléter des choses qui n'existent pas forcément ailleurs, qui n'existent pas forcément dans la famille ou dans les relations amoureuses. Parce que l'amitié, c'est quelque chose qui, en fait, a très peu de règles et où on peut vraiment improviser et être soi-même. Et c'est peu conditionné par des injonctions, en fait. Et le fait que ce soit du collectif aussi, je trouve que ça change pas mal les rapports. Et ouais, je pense que c'est un grand espace de liberté et d'amour collectif.
Tout à l'heure, on parlait du hashtag MeToo dans un peu cette fiction qui s'ancre dans la réalité. Il y a un autre moment qui est important dans la BD, c'est le moment des Césars. J'ai oublié l'année. Où, 2020, où Roman Polanski gagne, je crois, meilleur réalisateur ou meilleur scénariste, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, Roman Polanski qui est non seulement accusé par de multiples femmes d'agression sexuelle, de viol, et aussi condamné pour de nombreux faits, ce qui a provoqué le départ de Adèle Haenel de la salle. Et étonnamment, on s'est plus focalisé sur Adèle Haenel qui parle que sur les accusations de Polanski. Qu'est-ce que tu voulais montrer entre le décalage entre le discours public et la réalité vécue? Comment t'as vécu, toi, cette scène, par exemple?
Ben, je pense que le décalage, c'était surtout entre... entre l'évolution d'un mouvement féministe qui devient de plus en plus fort et en fait cette claque qu'on se prend quand Polanski est récompensé au César, parce que le message, il semblait très clair, ça semblait vraiment être on n'en a rien à faire, et limite une réponse à ces mobilisations féministes que de le récompenser. Et c'est à ce moment-là, je me souviens très bien quand c'est arrivé, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué les féministes et peut-être d'autres, j'espère. Et c'est quelque chose qui a créé une grosse mobilisation, qui a quand même pas mal galvanisé. Et il y avait un élan à ce moment-là, en début 2020, qui était très très fort, qui a été malheureusement assez coupé par le confinement et le Covid, etc. Donc qui n'est pas trop un aspect que j'ai eu envie de mettre dans le livre, parce que je trouvais pas que c'était très intéressant. Mais c'était assez fou de voir qu'il y a eu vraiment une progression à ce moment-là, qui s'est fait couper net, quoi.
Je voulais terminer notre entretien par un peu de forme. Ta BD est magnifique et j'invite tous nos auditeurs à l'acheter et à la découvrir. C'est quoi tes inspirations, des gens qui t'inspirent pour quand tu dessines ?
En bande dessinée, il y a deux personnes que je cite très souvent qui sont les deux autrices qui m'ont donné envie de faire de la BD, c'est Pénélope Bagieu et Myriam Mal. Pénélope pour son trait et sa façon de raconter les histoires, et Myriam pour son écriture, son trait aussi évidemment que j'adore, et son écriture, sa capacité à faire vivre des personnages, les dialogues, les amitiés féminines justement. Et après, il y en a plein d'autres, mais c'est les deux premières qui me viennent en tête toujours. Et puis après, en illustration, il y a une scène française de l'illustration qui est vraiment complètement folle. Enfin, il y a vraiment des artistes de dingue en France et dans le monde entier. Et c'est trop bien de pouvoir suivre ça sur Instagram. Mais je pense à... Du coup, c'est vraiment deux personnes qui ne sont pas françaises à qui je pense là. Mais je pense à Mariam Edem, qui je pense est chilienne, si je ne dis pas de bêtises, qui pour moi est la boss de la couleur. C'est magnifique. Et j'adore aussi, je pense à Nouria Tamarit, je crois qu'on dit comme ça. Elle, je ne sais pas sa nationalité, mais je... hispanophone aussi. Et on la salue, et magnifique aussi. Enfin, en fait, il y en a plein, je suis entourée de plein d'amis qui sont illustratrices. Enfin, c'est hyper inspirant d'évoluer dans ce milieu-là, parce qu'il y a vraiment des talents de partout, quoi.
Tes héroïnes sont féministes, elles sont aussi chanteuses amateurs. Il y a beaucoup de chansons dans ton livre, elles chantent à plusieurs moments. Est-ce que toi-même tu travailles en musique ? Il y a du Aya Nakamura, il y a du Taylor Swift ?
Je peux pas écrire en musique, ce serait vraiment trop dur parce que ça me déconcentrerait. Mais par contre, dès que je suis à la couleur, là c'est karaoké. Là. C'est vraiment très présent dans ma vie, je pense que comme beaucoup de personnes. Et ça accompagne beaucoup de moments de vie, donc je trouvais ça... chouette d'en faire aussi des scènes comme des respirations dans le livre, apporter un petit peu de légèreté et de joie, toujours.
Je pouvais pas faire cette interview avec toi sans parler roller au bout d'un moment, parce que t'en fais toi-même, c'est beaucoup présent dans la bande dessinée. Tu tenais vraiment à l'incorporer, c'est une sorte de liberté aussi.
Bah oui, en fait, le roller, c'est sûr que c'est présent dans ma vie, c'est quelque chose que j'adore, mais il y a un sous-texte féministe assez évident sur la place que peuvent ou pas prendre les femmes dans l'espace public. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté très fort en faisant du roller dans l'espace public. Et à quel point, dans cet espace qui est le skatepark, qui est un espace tellement masculin et tellement... où vraiment c'est inédit de voir des femmes dans cet espace, que ça conditionne vraiment la façon dont on... se permet ou pas d'exister dans l'espace public. Et prendre cette place-là en faisant du roller et en s'imposant dans ces endroits-là, ça fait quelque chose de bizarre quand même quand on est une meuf, et ça fait vraiment du bien. Et c'est pas toujours facile puisqu'il y a vraiment des gros relous, mais c'est vraiment un endroit qui fait beaucoup de bien.
Dernière question, c'est ta première BD de fiction, est-ce que ça t'a plu de faire ça ? Est-ce que tu vas continuer sur cette voie-là ? Est-ce que tu vas faire un peu plus de réel, si j'ose dire ? Comment ça va s'articuler la suite de ta carrière ?
Ouais, j'ai adoré faire cette BD, je me suis trop éclatée à faire de la fiction, à imaginer des décors, des scènes, des dialogues, donc c'est sûr que je vais continuer dans cette direction-là. J'ai envie d'écrire d'autres histoires, d'aller dans d'autres directions... et le champ des possibles s'ouvre à moi.
J'adore. Merci beaucoup, Eve.
Merci.
Merci encore à Eve d'avoir répondu à mes questions et aux audacieuses pour leur accueil. CDLP, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'après-midi, elle continue sur Bac FM avec la musique rock et metal. C'est parti.